France Culture.
Les nuits de France Culture.
Un désastre, une catastrophe, un choc, un long supplice, un immense échec. Les mots et les qualificatifs viennent à manquer lorsqu'il s'agit d'évoquer la bataille et la défaite française de Dien Bien Phu en 1954. Point final d'une longue et coûteuse guerre de décolonisation, l'événement suscita quantité de débats dans les milieux autorisés. Il était entendu que la France ne pouvait l'emporter en Indochine et qu'elle était plutôt en quête d'une sortie honorable. Mais cet engagement des troupes françaises, pensées et mises en œuvre pour négocier en position de force, aurait-il pu connaître un autre dénouement? Quelques pistes de réflexion sont données dans l'émission que voici. Deuxième partie d'un programme que l'Histoire en direct de Patrice Gélinet, consacré à Dien Bien Phu, avec des témoins et acteurs de cette bataille de sinistre mémoire, le 9 mars 1992.
Histoire en direct.
Và lúc ấy thì đồng chí Tạ Quốc Luật và tôi cùng với chiến sĩ nhỏ chính thức vào hầm.
Et à ce moment-là, Monsieur Tạ Quốc Luật, chef de la compagnie, moi et une autre personne, nous sommes entrés dans la pêche du général de Castries.
Gần 30 sĩ quan Pháp đều đứng dậy.
Près de 30 officiers français sont debout.
Tướng de Castries đã hàng rồi.
Le général de Castries se rend.
Chưa bao giờ tôi thấy sung sướng như lúc đó.
Jamais je me sentais heureux comme à ce moment-là.
Que voulez-vous qu'on éprouve en pareil cas, sinon un immense échec? Un immense échec, on revoit tout en arrière et on se dit l'échec, c'est un échec de toutes nos conceptions, c'est un échec de tout ce que nous pensions, et comme soi-même, on ne peut pas se mettre en dehors du coup en disant c'est les autres, eh bien on se dit je suis fautif pour ma part de cet échec, c'est forcé.
Bonsoir, les deux hommes que vous venez d'entendre, le soldat Vin et le général de Séguin-Pazis, ont été les témoins d'une des batailles les plus importantes du XXe siècle. Ils se sont trouvés face à face il y a 38 ans, le 7 mai 1954, en fin d'après-midi, dans un petit village du Nord-Vietnam, près de la frontière du Laos, un village qui, ce jour-là, entrait dans l'histoire, le village de Dien Bien Phu. Et c'est là qu'à l'issue de 55 jours de bataille, le soldat Vin de la division Viet Minh 312 entrait en vainqueur, le premier, dans le PC souterrain du général de Castres et faisait prisonnier tout l'état-major, dont général de Séguin-Pazis, qui était à l'époque colonel. Alors, cette bataille de Dien Bien Phu, l'Histoire en direct a voulu lui consacrer ses émissions de mars. Pourquoi? Eh bien parce qu'en ce moment sort le film très attendu de Pierre Schoendorfer, qui fut lui aussi un témoin de cette bataille et qui, 38 ans après, a voulu en faire un film tourné au Vietnam l'année dernière. Pierre Schoendorfer est un de mes invités ce soir de l'Histoire en direct, enregistré comme d'habitude en public et en direct du studio 105 de la Maison de Radio France pour ce débat sur Dien Bien Phu auquel participe également Lucien Bodard, qui fut correspondant de guerre en Indochine de 48 à 54, qui a surtout relaté cette guerre à travers le journal François, avec également Jean-Pierre Danneau, ancien directeur des services français de l'information en Indochine et qui a écrit un superbe livre, hélas épuisé, La guerre morte. Deux historiens également, plus jeunes, Jacques Dalloz, maître de conférence à Sciences Po et auteur de deux livres sur la guerre d'Indochine, Dien Bien Phu, qui vient de sortir la documentation française, et puis un des livres les plus clairs qui a été écrit sur cette guerre compliquée, la guerre d'Indochine, 45-54, au seuil. Enfin, Laurent Henninger, historien militaire, auteur déjà d'une bataille de Marignan, mais qui a écrit dans le numéro spécial de janvier des dossiers de l'histoire consacrés à Dien Bien Phu, donc l'article consacré à cette bataille. Alors, ma première question, elle sera pour vous, Pierre Schendorfer, dans le livre qui accompagne ce film, un très beau livre qui vient de sortir, je crois, chez Fixo. Dans ce livre, vous écrivez « Le tournage de ce film était une affaire d'amour. Je pense aussi que la bataille était une affaire d'amour. » Alors, comment est-ce qu'on peut dire d'une bataille qui a été aussi violente, aussi meurtrière, aussi acharnée, qu'elle était une histoire d'amour, Pierre Schendorfer?
Bien, je crois que, d'une certaine manière, c'est assez simple. On aimait ce pays. Alors, ce qui est moins simple, c'est que ce n'était pas notre pays. Mais je pense que dans les soldats qui, en 1916, se battaient à Verdun, il y avait l'amour de la patrie, il y avait l'amour de la France, il y avait l'amour du sol français. À Dien Bien Phu, c'était pas le sol français, c'était un sol indépendant du Vietnam, mais il y avait l'amour pour ce pays. Et je vois une des choses qui m'a frappé, c'est quand je suis retourné au Vietnam pour suivre une section américaine, j'ai rencontré des jeunes Américains. Ces jeunes Américains arrivaient et tout le monde leur disait « Faites très attention, tous ces Viets sont des sournois, sont des salauds, ils vont vous tirer dessus. » Même une femme avec un bébé dans les bras peut cacher une grenade. Enfin, ils arrivaient, ils avaient peur, et on aggravait cette peur, et on aggravait cette idée que le Vietnam était quelque chose d'horrible. Moi, quand je suis arrivé, je n'ai rencontré que des gens qui aimaient ce pays. Moi, j'étais prêt à l'aimer, j'étais parti avec espérance de découvrir quelque chose que j'aimerais, mais j'ai rencontré des gens qui m'ont tout de suite emmené manger une soupe chinoise au bord de la route et qui m'ont dit « c'est un pays fantastique, c'est extraordinaire ».
C'est l'impression qu'on en tire, effectivement, quand nous avons été, par exemple, avec Christine Darsugier, on est parti pour faire cette série d'émissions sur la guerre d'Indochine. Moi, je ne connaissais pas du tout. Vous, c'était un retour quand vous y êtes allé l'an dernier. Cette espèce de fascination, ce qu'on appelait le mal jaune, je crois, vous l'avez partagé, vous, Lucien Bodard, le mal jaune aussi.
C'est vrai que j'aimais ce pays, ses habitants, son climat, ses mœurs. Il y a une sorte d'affinité entre les Français et les Vietnamiens. Et... comment dirais-je, à faire cette guerre, eh bien, il y a certains Français qui ont assez étrangement pris un certain plaisir. Plaisir de l'héroïsme, plaisir du mythe, plaisir de la légende, Dieu, il est para, un peu la légion étrangère. Et en même temps, et coexistant avec cet amour, il y avait de la part des Vietnamiens, évidemment, une volonté farouche d'indépendance, une sorte de haine congénitale chez certains d'eux, et ce qui a surpris les Français, une capacité de se battre extraordinairement dans la jungle et dans la rizière, où, finalement, ils nous ont surclassés. Et Dien Bien Phu ou pas Dien Bien Phu, ça ne pouvait se terminer, cette guerre d'Indochine, étant donné notre infériorité, que par une calamité.
Jean-Pierre Daneau, vous-même, l'état d'esprit des militaires, moi, je suis très frappé de voir que les militaires évoquent beaucoup plus volontiers la guerre d'Indochine que la guerre d'Algérie, et où pourtant ils n'ont pas subi de Dien Bien Phu, il n'y a pas eu de Dien Bien Phu en Algérie. Comment se fait-il qu'aujourd'hui ils soient si nombreux à vouloir retourner là-bas, malgré Dien Bien Phu, malgré cette guerre très longue qui s'est passée entre les Vietnamiens et les Français?
Eh bien, en Indochine, il n'y a pas eu, au même degré qu'en Algérie, pour l'armée, le drame d'abandonner nos partisans, les harkis. Nous avons abandonné beaucoup de gens, nous avons abandonné les taux, nous avons abandonné les méos, nous avons abandonné les thaïs, nous avons abandonné aussi les catholiques de la zone sud. Mais malgré tout, l'armée, grâce à Dien Bien Phu, est sortie la tête haute de la guerre d'Indochine. Et comme en Indochine, nous n'avions pas le sentiment d'être des occupants, parce que nous croyions vivre, et nous vivions pour une part vraiment dans l'amitié de beaucoup de Vietnamiens, nous n'avons jamais ressenti le sentiment d'être en terre étrangère un ennemi qu'il fallait chasser. Les Bodoy, conduits, pris par la mécanique du implacable...
Les soldats du Viet Minh.
Soldats du Viet Minh. Ont lutté pour l'indépendance du Vietnam, mais cette indépendance, nous pensions que la France l'avait accordé avec hésitation à plusieurs reprises, mais finalement qu'elle était un fait acquis, et que par conséquent, les officiers qui se battaient là-bas, même s'ils n'étaient pas soutenus par l'opinion publique en France, avaient le sentiment de ne plus mener une guerre coloniale ni une guerre d'occupants.
Alors revenons à Dien Bien Phu, qui est vraiment le cœur de notre sujet. Moi, ce qui m'a frappé dans votre film, Pierre Schoendorfer, c'était le côté Verdun. Et d'ailleurs, vous l'écrivez aussi dans ce livre que j'ai cité tout à l'heure. Vous disiez, c'était Verdun sans la voie sacrée, c'est-à-dire sans le ravitaillement, sans la logistique. Voilà, oui. Il n'y avait pas de lien ombilical, sinon les parachutages.
Voilà, si vous voulez, on peut dire que Dien Bien Phu était une bataille atypique de la guerre d'Indochine. La plupart de nos batailles s'étaient passées soit dans le delta ou dans les abords du delta, soit en haute région, dans la jungle, mais jamais, à part quelques exceptions près comme Nassan, mais qui n'avait duré que quelques jours, jamais on n'avait tenu des positions comme nos grands-pères avaient tenu leurs positions avec des tranchées pendant la guerre de 14-18. C'était quelque chose donc d'assez exceptionnel avec des troupes qui n'étaient pas faites pour ça. Les parachutistes n'étaient pas faits pour tenir des positions. Ils étaient faits pour en sortir et gicler et aller semer le désordre ailleurs, de chez l'ennemi. Mais donc c'était quelque chose d'atypique à laquelle le corps expéditionnaire qui était sur place a dû s'adapter. Et c'était donc, ça ressemblait beaucoup à Verdun, d'ailleurs les images le montrent, même je ne parle pas seulement de mon film, je pense que toutes les photos qu'on a pu voir sur Dien Bien Phu, avec justement cette voie sacrée. La voie sacrée, c'est quoi? C'est une route qui allait de Bar-le-Duc à Verdun, qui permettait aux renforts de monter et aux troupes décimées de redescendre du front avec les blessés. À Dien Bien Phu, les troupes pouvaient monter d'une certaine manière, puisqu'on pouvait les parachuter. Au départ, ça a été des parachutistes. Par la suite, ça a été des volontaires de toutes les armes qui n'avaient jamais sauté et qui se sont portés volontaires pour sauter la nuit dans cette cuvette. Mais personne ne pouvait en ressortir. C'est-à-dire que les unités décimées, elles restaient sur place. Et celles qui n'avaient plus du tout de cadre ont engendré ce qui arrive tout à fait normalement dans ces cas-là, des désertions. Des désertions qui ne sont pas des gens qui ont passé de l'autre côté, ce sont des gens qui sont restés cachés au bord de la rivière et qui ne se manifestaient que la nuit pour survivre.
Des personnages hallucinants, ce qu'on appelle les rats de la Namyoun.
Voilà, ça a été un surnom qui leur a été donné.
Que vous mettez en scène dans votre film, oui.
Et mais c'est tout à fait logique dans toute opération militaire avec les pertes qu'il y avait, engendre ce genre de choses. Ce qui est surprenant, c'est qu'il n'y en ait pas eu plus, voyez. Alors il y avait aussi le fait que les blessés ne cessaient de s'entasser les uns sur les autres. Et bien sûr, les hôpitaux n'avaient pas été conçus pour ça, puisque théoriquement, on devait avoir les avions devaient pouvoir les évacuer. Si bien qu'ils se sont répandus jusqu'en première ligne. Et que même à un moment donné, à la fin, quand le bruit a couru, est-ce que Bijard l'a donné l'ordre ou est-ce que c'est un bruit qui a couru, qu'on avait besoin de volontaires encore capables de porter une arme, de tenir une arme? Il y a eu, et le docteur Grosvin le raconte très bien dans son livre, il a vu toute une partie de ses blessés qui claudiquaient en s'épaulant mutuellement pour regagner leurs unités. C'était quelque chose de vraiment exceptionnel.
Vous les reconnaissez, on reconnaissait les rats de la Namyoun, donc qui étaient des déserteurs, au fait qu'ils étaient blafards.
Voilà, alors ça, c'est tout à fait à la fin, quand le camp retranché a cessé de tirer, parce qu'on ne s'est pas véritablement rendu dans le terme, il n'y a pas eu reddition, avec échange, arrivant avec un drapeau blanc pour discuter avec l'adversaire. On a reçu l'ordre de détruire nos armes et nos munitions. Et à un moment donné, les Viettes qui préparaient le dernier assaut ont tâté nos premières positions, ont vu qu'il n'y avait pas de réaction et ont compris ce qui se passait. À ce moment-là, on a vu au bout d'un certain temps sortir de partout les survivants de Dien Bien Phu. Et il y avait, quelqu'un m'a fait remarquer, c'est un officier qui était à côté de moi, que certains avaient le visage encore un peu buriné, c'était les gens qui étaient donc, qui sortaient des tranchées à l'occasion des contre-attaques, qui avaient le visage un peu bronzé par le soleil, et que d'autres étaient totalement blafards. C'était les gens qui se tapissaient le jour et qui ne sortaient la nuit que par nuit calme que pour chercher un peu de ravitaillement.
Je suis rappelé que dans votre film, dans votre livre, bon, vous avez, vous le savez, la réputation qui est fausse, mais d'être très manichéen. Vous êtes extrêmement...
manichéen.
Souvent, on dit Pierre Schoendorffer, j'ai bien précisé qu'elle était fausse, cette réputation Pierre Schoendorffer. Et là c'est surprise. Vraiment... on trouve dans votre film une grande compréhension vis-à-vis de ces gens qui sont tout de même des déserteurs, et puis aussi vis-à-vis de l'adversaire qu'on ne voit jamais. Je disais tout à l'heure que ça ressemblait à Verdun, et c'est vrai que ça fait penser un peu à cette guerre de tranchées. Junger disait en 1916, je n'ai jamais vu pendant toute la durée de la guerre les gens qui étaient à 200 mètres de moi en face de moi.
On les voit, c'est-à-dire on les voit quand ils lancent l'assaut, mais on les voit pendant des temps très courts. Mais sans ça, si vous voyez l'adversaire, il vous voit, et l'un des deux est mort. Hein. À la guerre, on ne va pas se regarder à dire « Ah, il est en face !» et puis ça s'arrête là. Non, donc c'est tout à fait normal qu'on ne voit pas... Et on a vu les Viettes que quand ils lançaient un assaut, ou par moment à la fin, quand on n'avait plus assez de munitions pour les empêcher de se regrouper dans des zones qui sont proches du point de départ de l'attaque. Mais on les voyait à ce moment-là relativement loin, une centaine de mètres. Mais sans ça, l'adversaire, on ne le voit pas. C'est pas comme les guerres napoléoniennes où les soldats étaient en rang face à face et se tiraient dessus en se voyant vraiment clairement.
Alors c'était une guerre de tranchées. Oui, Jacques Dalloz, vous voulez intervenir?
Oui, à propos des rats de la Nam Yun, je voudrais quand même dire qu'il y avait des unités particulières dans ces trous. C'était essentiellement les tailles. Et dans la commission militaire qui a été donc dirigée par général Catroux, général Catroux reproche au commandement d'avoir mis à Diet Bien Phu des unités qui n'étaient pas toutes sûres, notamment les compagnies Thaï.
Oui, qui n'étaient surtout pas faites pour faire cette guerre. C'était des unités qui avaient été formées pour des patrouilles en haute région, qui connaissaient leur région, mais qui n'avaient été en aucun cas moralement et physiquement préparées à subir ce qu'ils ont subi.
Jean-Pierre Danneau.
Oui, le 3e bataillon Thaï, qui s'est débandé à Anne-Marie, s'était très bien battu à Nialo. Ce qu'il y a, c'est que c'était des tailles blancs et Dien Bien Phu était en zone taille noire. Et puis la guerre avait duré depuis Nassan et le moral n'était plus le même. Mais je crois qu'effectivement, quand on dit la guerre, la bataille a été perdue, elle devait être perdue, si les 12 bataillons qui garnissaient le camp retranché avaient tous été des bataillons de para et de légion, il n'est pas sûr que la bataille de Dien Bien Phu aurait été perdue.
C'est ce que disait Guillard dans le documentaire. Oui.
Le bataillon algérien qui s'est débandé, les bataillons Thaï qu'on avait mis dans une position impossible. Il ne faut pas oublier que le général Cogny avait évacué Laikyo, la capitale de la fédération Thaï, et la capitale des Thaï blancs, dans des conditions qui avaient sacrifié complètement les Maquis Thaï, n'est-ce pas ? Alors que leur morale était un peu atteinte, ça se comprend.
Alors Cogny était donc le commandant en chef au nord du Tonkin. Il était sous les ordres du général Navarre qui commandait en chef dans l'ensemble de l'Indochine. Mais enfin, vous disiez, Jean-Pierre Danneau, la bataille était perdue, on l'a vite dit. En réalité, on pensait qu'elle serait gagnée. Je voudrais peut-être me tourner vers les historiens, même plus jeunes, même s'ils n'ont pas vécu ce moment, mais qui ont travaillé dessus. Quels étaient les enjeux, les objectifs, à la fois des Français en s'installant à Dien Bien Phu en novembre 1953 et des Vietnamiens du général Giap quand il a décidé d'attaquer en mars 1954. En fait, il avait tenté avant, mais enfin, quels étaient les objectifs des uns et des autres, et d'abord de l'état-major français sous les ordres du général Navarre, Jacques Dalloz ou Laurent Henninger, qu'est-ce qu'il veut, Jacques Dalloz?
Oui. Lorsque Navarre a installé son camp retranché en novembre 1953, l'objectif était de verrouiller le Laos, et c'était pas, comme on l'a dit plus tard, de casser du Viet. Il s'est aperçu donc que des troupes Viet-Minh allaient vers le Laos, il a constitué un camp retranché. Mais il ne voulait pas du tout tenter dans une grande bataille la destruction générale du corps de bataille adverse, comme on l'a dit plus tard. En ce qui concerne Giap, il est clair que lorsqu'on a connu le 18 février les résultats de la conférence de Berlin, c'est-à-dire qu'on allait bientôt à Genève discuter du sort de l'Indochine, il est certain que Giap a voulu jouer un grand coup, un coup de poker. Il a voulu obtenir une grande victoire pour pouvoir être à la table de négociation et n'être pas lâché, notamment, ce qui était sa crainte, par les grands alliés, par les Russes et les Soviétiques.
Laurent Henninger ?
Oui, je pense que ce processus de décision qui aboutit à cette bataille est sans doute un petit peu plus complexe. Il est double, ce processus de décision. D'un côté, il y a les Français, et de l'autre, les Vietnamiens. Donc, au départ, chez les Français, il y a plusieurs décisions, souvent contradictoires, qui sont prises. Parce qu'il y a certains groupes, déjà en France, certains groupes politiques veulent lâcher l'Indochine parce qu'ils pensent que l'essentiel de la stratégie de la France doit se dérouler en Europe. D'autres groupes sont liés aux Américains et subissent les pressions des Américains, lesquels veulent que la France obtienne une décision en Indochine. Et puis, dans l'état-major français sur place en Indochine, il y a Navarre qui veut effectivement faire ce que vous avez dit, à savoir barrer la route au Laos, parce que les Français savent qu'ils vont quitter l'Indochine et le Laos s'apprête à être le pays indépendant le plus proche de la France, donc ils veulent le garder. Et Cogny, lui, ne veut pas du tout faire ça. Il veut imiter la stratégie qu'avaient mise en place les Britanniques en 1943 en Birmanie, sous les ordres du général Wingate, en l'occurrence, c'est-à-dire de créer des bases arrières dans la jungle pour faire des raids commando en plein territoire ennemi. Donc, à partir du moment où, d'un côté, les décideurs ont tous des objectifs totalement différents, voire contradictoires, le camp qui décide de la bataille est en mauvaise position. De l'autre côté, chez les Vietnamiens, au départ, Giap, Ho Chi Minh et Pham Van Dong ne veulent pas du tout attaquer à Dien Bien Phu. Ils savent que c'est un gros morceau, que les forces françaises présentes dans la cuvette sont extrêmement puissantes et les Vietnamiens n'ont aucune raison d'attaquer ce camp, d'autant qu'ils savent que le général Navarre a tort et que Dien Bien Phu ne barre absolument pas l'accès au Laos. Et c'est ce que confirme Bijard quand il dit « dans cette région, on ne barre pas une direction, c'est une notion européenne, là-bas le Viet passe partout ».
C'est ce que vous écriviez aussi, Jean-Pierre Danneau. Vous n'avez pas l'air d'accord, oui, mais vous l'écriviez dans votre livre « La guerre morte ».
Oui, je ne suis pas d'accord sur plusieurs de ces points. Premièrement, bien sûr, on ne barre pas la route à une infanterie aussi rustique que l'infanterie Viet en occupant un carrefour de piste. Malgré tout, tout militaire, même s'il n'a pas fait l'école de guerre, hésite à s'avancer très loin avec l'ennemi sur ses arrières. Le général Navarre a pris une décision courageuse que le gouvernement n'avait pas prise. Il faut, quand Laniel a annoncé, déclaré que les États associés allaient
être totalement indépendants... Laniel était président du Conseil, hein, chef du gouvernement à l'époque, oui.
Laniel, chef du gouvernement français, annonce le 3 juillet que la France décide pour la énième fois et pour la bonne de donner l'indépendance aux trois États associés. Et le Laos est le premier État qui signe ce nouveau traité d'association avec la France le 22 octobre. Et Navarre, sans instruction du gouvernement, a le courage de se dire « on ne peut vraiment pas abandonner les Laotiens ». Alors je ne suis pas non plus tout à fait d'accord sur la différence entre la stratégie Navarre et la stratégie Cogny. D'abord, le général Cogny a eu plusieurs stratégies. D'autre part, c'est très beau de parler des Chindits de Wingate, c'est-à-dire de ces troupes spécialement faites pour le jungle warfare. Mais nos meilleures troupes, les bataillons paras, ne se sentaient quand même pas tout à fait à l'aise dans la vraie jungle. Prenez ce qui s'est passé lors de l'évacuation de Cao Bang, le long de la piste de Quang Liet. Par conséquent, je trouve que les idées de Cogny à cet égard, à supposer qu'il les ait eues et qu'il n'ait eu que cela, ce que je mets en doute, parce que quand même, il a proposé l'occupation de Dien Bien Phu. Ensuite, quand il a vu que ça tournait mal, il a été moins affirmatif. Mais c'était... Navarre a trouvé dans les papiers du général Salan son contact avec le général
Salan Cogny, était son prédécesseur, hein, il faut le rappeler aussi.
De son prédécesseur, a trouvé déjà cette idée de s'installer à Dien Bien Phu. Par conséquent, je ne trouve pas que Navarre, il ne faut pas lui jeter la pierre, il avait très bien commencé, il a pris d'énormes risques, et puis ensuite, il n'a peut-être pas conduit la bataille comme il le fallait. Mais l'idée de défendre le Laos était pour la France une obligation sacrée.
C'est pas ça que je remets en cause.
Il faut rappeler quand même qu'à cette époque-là, enfin vous l'avez déjà dit, mais enfin qu'à cette époque-là, la France souhaite quitter, souhaite évacuer l'ensemble de l'Indochine. Ce qu'elle veut, c'est éviter la défaite qu'elle a finalement subie à Dien Bien Phu. Jacques Dalloz.
Elle veut, comme dit René Maillère, qui était le chef du gouvernement d'avant, elle veut une sortie honorable et Navarre a été nommé par Maillère pour ça, pour chercher les conditions militaires d'une sortie honorable. Car on sait très bien que la guerre est ingagnable.
Là-dessus, Lucien Bodard, vous qui étiez sur place à l'époque.
J'étais pas à Dien Bien Phu comme
chef d'affaires. Non, pas à Dien Bien Phu, mais.
Mais j'étais à. Il n'y avait pas de journaliste à Chandorfer. Ah, à Dien Bien Phu. Mais je ne pense pas que Dien Bien Phu fût un verdun. Ça n'avait pas été conçu comme ça. Comme vous avez dit, ça a été conçu. Ça avait été conçu comme une plaque destinée à des opérations légères dans le Delta. Pas dans le Delta, dans la jungle. Mais dès ses premières opérations, on s'est aperçu qu'on se heurtait à un Viet très fort et très puissant. Et d'ailleurs, les paras, si vous voulez, dès le début, ils avaient une opinion pessimiste. Je me souviens, la première fois que j'étais à Dien Bien Phu, avant le début de la bataille, j'ai vu le commandant Bijard. Et Bijard m'a dit, pourvu qu'on nous tire de là, ça sent la charogne, jamais on ne résistera là. Voyez, c'est bon, c'est tout ça, c'est trop large, c'est indéfendable. Et effectivement, c'était indéfendable. Je pense que le général Navarre a commis une erreur totalement monstrueuse. D'autre part, le corps et l'attitude du général Cogny, il faut le dire, n'a pas été très nette. D'autre part, le cordon ombilical, c'est vrai qu'en principe, il y en avait un. C'est-à-dire que ce cordon était un cordon aérien. Que des avions puissent se poser, puissent amener des munitions, des ravitaillements, amener des gens, remporter des gens. Pour cela, comment dirais-je, il fallait que les canons de Viet n'écrasent pas Dien Bien Phu. Or, dès la première nuit, la bataille était perdue parce que la base principale, qui s'appelait Béatrice, qui commandait, si vous voulez, les voies d'accès depuis les montagnes où étaient les Viet, était perdue. Peu après, était perdue comme dit réel. Après ça, ça a été plus qu'une bataille autour du centre de Dien Bien Phu, où effectivement, ça a pris peu à peu l'aspect de Verdun.
C'est le grand reproche qu'on fait effectivement à l'état-major. On a le sentiment, vous parlez beaucoup, Pierre Schoendorfer, notamment. D'ailleurs, vous ne montrez pas dans votre film de très haut gradé. Et on a un peu le sentiment, c'est ce que certains journalistes ont déduit, que finalement, c'est parce que vous considérez vous-même que les responsabilités dans cette affaire sont portées en partie par un certain nombre d'officiers d'état-major. Parce que, bon, c'est vrai que cette cuvette, c'était intenable. Ho Chi Minh montrait, je crois, à Giap, Ho Chi Minh et Giap, en se voyant, montraient un casque à l'envers
oui, enfin,
et disaient,
ça,
voyez,
ça,
au fond du casque.
C'était un peu de la propagande, parce que, je veux dire, les Viet n'étaient pas tout à fait autour de la cuvette à nous regarder en bas. Non, mais il est certain que le général qui commandait les forces terrestres du Nord-Vietnam, qui était le général Cogny, a laissé un peu les choses s'enferrer. Le choix stratégique de Dien Bien Phu, je ne sais pas. Il y a des moments où je pense que, comme on aurait pu tenir, il n'était pas idiot. Et d'autres moments où je me dis, oui, quand même, si loin de nos possibilités aériennes, si loin dans, si proche du Laos, donc très loin de tout. Mais je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, que c'est sur le plan tactique, le général qui commandait n'a pas donné les instructions et clairement à Dien Bien Phu, il ne fallait pas abandonner une seule des collines si on voulait garder à distance la DCA. Il fallait les reprendre si on les avait perdues. Il fallait, le cas échéant, si le commandement à Dien Bien Phu était désemparé, il fallait aller sur place et secouer ces gens-là. Il y a d'autres généraux l'ont fait.
Vos sentiments à ce moment-là, vous-même, puisque vous y étiez, vous êtes le seul sur ce plateau à y avoir été, vous parlez de honte. Pourquoi la honte?
À un moment donné, on détruit ses armes et qu'on a plus rien pour tirer. Enfin, moi, c'était ma caméra. Et qu'on sort.
Vous avez détruit votre caméra.
Et on est dans son trou, on entend les Viet arriver, on se demande si on va sortir les bras en l'air. Ben, je vous promets qu'il y a de la honte, là. Il y a de la rage. Il y a du dégoût de quelque chose et il y a le sentiment que quand même on a été abandonné.
Je crois que on a eu l'impression que la bataille était perdue après la première nuit, quand ces positions essentielles ont été prises
et n'ont pas été reprises.
Et cela à cause des canons Viet. On savait que les Chinois fournissaient beaucoup d'armement, fournissaient des canons en Viet, mais jamais on n'avait pensé qu'ils seraient capables de les hisser au sommet des montagnes, de les mettre dans des caves, dans des trous où ces canons seraient inexpugnables. et de là pouvait tirer comme il voulait sur les positions françaises de Dien Bien Phu, ce qui s'est produit. Alors le résultat, c'est que l'artillerie française de Dien Bien Phu a été détruite. Le chef qui commandait cette artillerie, qui s'était porté garant de la puissance de la contre-batterie, s'était suicidé.
Colonel Pirotte, oui.
C'est suicidé. Et ensuite, les avions n'ont plus pu atterrir. Et pourquoi est-ce que Geneviève de Galard est devenue si célèbre? Parce qu'elle était la dernière fille du Croix-Rouge qui est venue dans le dernier avion Croix-Rouge qui devait amener des blessés, qui s'est posé à Dien Bien Phu et qui ne pouvait plus repartir. Après ça, il n'y avait plus de liaison directe aérienne, enfin de liaison par le sol, entre Dien Bien Phu et Hanoï. Mais à ce moment-là, si vous voulez, ça ne pouvait plus être qu'un exploit d'héroïsme. Et c'est à ce moment-là qu'on a parachuté les paras. Ça a été l'épopée paras. Et les chefs sont naturellement devenus, de cette épopée, sont devenus les chefs des différents bataillons paras, les capitaines, les commandants paras, avec à leur tête Bijard, tandis que De Castres était dépassé par les événements. Il n'avait pas prévu cela. Il était tout glorieux. Il annonçait à l'avance que cette victoire serait merveilleuse. Il n'avait pas du tout prévu ça. Et il a, à partir de ce moment-là, il n'a pratiquement plus commandé, étant supplanté par la République des officiers paras.
On dit souvent, puisqu'on parle de l'état-major, on dit souvent, et justement, vous voulez intervenir, Jean-Pierre Danneau, mais on dit souvent que, au fond, et ça, c'est un Vietnamien qui me l'a dit là-bas, qui était le colonel Le Kim, et qui m'a dit qu'au fond, le grand chef qu'il ait connu en Indochine, c'était le général devenu maréchal Delattre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'avec un Delattre, Dien Bien Phu aurait pu devenir une victoire?
Avec, à la tête du camp retranché, un Gilles ou un Van Uxem, et à la tête du corps expéditionnaire, un général Delattre, je pense que Béatrice a supposé que Béatrice ait été prise, ce qui est quand même un accident, comme il en arrive dans toutes les guerres. Cet accident aurait été évité si on s'était enterré. Mais on ne s'est pas enterré parce qu'on ne pensait pas au départ que ça serait un camp retranché, comme on l'a dit tout à l'heure. Moyennant quoi, il y a eu des coups au but qui ont tué le commandant Pégot et le colonel Gaucher le jour de l'attaque de Béatrice. Je pense que le lendemain, c'est le lendemain que le combat, la bataille était perdue, parce que le colonel De Castres et le général Cogny au-dessus de lui, le général Navarre, n'ont pas donné l'ordre de reprendre immédiatement Béatrice. Et Béatrice est restée inoccupée par les Viettes pendant toute une journée, et ensuite, c'était trop tard, et le lendemain, c'était Gabriel.
Je rappelle à ceux qui n'ont pas écouté l'émission documentaire que tous ces noms de femmes, c'était les noms, effectivement, qui avaient été donnés à tous les points d'appui qui représentaient l'ensemble du camp retranché de Dien Bien Phu. Laurent Henninger, et ensuite, on passe aux conséquences de Dien Bien Phu, oui.
Oui, je pense qu'il faut quand même revenir un petit peu en arrière, plutôt que de parler trop longtemps de problèmes tactiques. Le problème, il est fondamentalement stratégique dans cette bataille. Faut pas oublier que la stratégie, c'est un jeu qui se joue à deux. Et donc, faut pas simplement parler des Français, mais également parler du processus de décision chez l'ennemi, c'est-à-dire chez les Vietnamiens. Au départ, je vais reprendre mon raisonnement là où j'avais été interrompu tout à l'heure. Les Vietnamiens n'avaient pas l'intention d'attaquer. Or, ils avaient simplement l'intention, en encerclant le camp de Dien Bien Phu dans la fin de l'année 53, ils avaient simplement l'intention de marquer la position, exactement comme au football quand on marque un joueur de l'équipe adverse. Or, les Français ont vraisemblablement mal interprété cette décision vietnamienne. Ils ont cru que, en encerclant le camp, exactement comme César avait encerclé par un autre camp retranché le camp d'Alésia, les Français ont cru que les Vietnamiens recherchaient d'ores et déjà la bataille décisive. Et donc, ils sont tombés dans le piège et ils ont dit, superbe, les Vietnamiens cherchent la bataille décisive, nous aussi, on va pouvoir enfin utiliser toute notre puissance de feu, là où nous sommes supérieurs, et on va mettre des forces. Et ils ont effectivement fait la même erreur que les Allemands à Stalingrad en 42-43, et les Viet Minh, de l'autre côté, ont utilisé la même stratégie que les Soviétiques, toujours dans cette bataille de Stalingrad, à savoir la stratégie dite du contrôle réflexif.
Mais on a mis les forces que quand la bataille a commencé. Avant ça, c'était les mêmes troupes qui étaient là depuis novembre 53. On n'a pas changé, justement, quand on a senti que les Viet allaient attaquer Dien Bien Phu, on n'a pas changé les troupes qui étaient mal faites pour ce genre de combat par d'autres troupes qui ont été mieux entraînées pour ça. On a laissé les gens dans l'état sans rien faire. On n'a même pas fait creuser les trous plus profonds. Oui. L'hôpital était fait pour combien de blessés?
Mais c'est pas incompatible avec ce que je dis, parce que
en tout cas c'est un manque de réaction du commandement. S'il prévoit qu'on va attaquer et qu'il ne donne pas les ordres pour que...
Les Vietnamiens ont décidé d'attaquer alors qu'au départ, je le répète, ils n'en avaient pas l'intention, à partir du moment où ils ont su qu'il allait y avoir la conférence de Genève. Et là, ils ont décidé de mettre toutes leurs forces dans la bataille. Et la stratégie que les Soviétiques leur ont conseillé d'employer vraisemblablement, celle de Stalingrad, c'est de mettre suffisamment de renforts pour tenir et faire croire à l'ennemi qu'il a encore des chances de tenir. Mais jamais trop de renforts. Giap n'a jamais mis toutes ses réserves d'un seul coup dans la bataille, sinon les Français auraient retiré les leurs.
Il avait 5 divisions dans la lourde, il avait 2 régiments indépendants. Non, c'était pratiquement les 80% de son corps de bataille.
Oui.
Mais non, au départ, le 13 mars.
Au départ.
Au 13 mars,
mais pas en novembre. Pas en novembre-décembre.
Fin décembre, il avait tout ça.
Voilà. Tout à l'heure, Pierre
Chalmers. Les canons, ils les ont pas installés en 8 jours.
Ah non, mais ça a mis plusieurs mois.
Alors, on va pas refaire, si vous voulez bien, la bataille qui a été déjà évoquée dans le documentaire et bien sûr dans votre film. Pierre Chalmers, vous disiez tout à l'heure que vous aviez, au moment de la chute de Dien Bien Phu, le sentiment d'être abandonné. Et c'est vrai que dans cette guerre, l'opinion publique, au fond, on peut dire, n'a découvert la guerre d'Indochine 7 ans après, qu'au moment de la chute de Dien Bien Phu. Moi, je me souviens, j'étais tout petit à l'époque, mais ça m'avait moi-même beaucoup frappé. Alors, je vous propose, avant de voir les conséquences pour les Vietnamiens, pour les Français, pour le tiers-monde aussi, je vous propose justement de faire une petite revue de presse du lendemain 8 et 9 mai, faite par Emmanuel Laurentin, qui sévit tous les matins aussi sur Culture Matin, et qui va nous raconter, à travers notamment une presse que l'on trouve dans le livre La documentation française, donc de Jacques Dalloz, sur Dien Bien Phu, eh bien, quelle était la réaction en France au moment de la chute du camp tranché de Dien Bien Phu. Emmanuel Laurentin.
Bonsoir. Oui, alors ce soir-là, justement, ce jour-là, c'est le choc. Tandis que dans Le Monde, daté du 8 mai, Jacques Madol titre son article « Tout est calme en Algérie », tous les quotidiens comptent par le menu les derniers instants de Dien Bien Phu. Et chacun, selon son sentiment, de jouer sur les dates, de noter l'ironie de l'histoire qui fait coïncider, comme l'écrit l'Humanité, la chute de Dien Bien Phu avec le 9e anniversaire de la chute de l'hitlérisme, ou bien encore, comme le note La Croix, avec le 525e anniversaire de la délivrance d'Orléans par Jeanne d'Arc. Car après ces 8 semaines d'enfer et de gloire, comme l'écrit l'Aurore, il faut bien l'admettre, ceux de Dien Bien Phu, et on écrit ceux avec une majuscule, ont été submergés. Mais tous, comme pour modérer la défaite, insistent sur leur résistance, que le Figaro qualifie d'héroïque. Saluons très bas, écrit lyrique l'Aurore, les officiers supérieurs, subalternes et sous-officiers, les simples et braves hommes de troupe. Tandis que Pierre Brisson, à la une du Figaro, salue le courage dépensé, la valeur des soldats, la chaîne ininterrompue des sacrifices et l'élan du volontariat fraternel et désespéré d'hommes libres contre le fanatisme. Ça n'est, on s'en doute pas du tout, l'analyse de l'Humanité, l'Humanité qui, au contraire, note que Dien Bien Phu est tombé aux mains de l'armée démocratique vietnamienne et qui insiste pour que les pourparlers pour le cessez-le-feu débutent au plus tôt. « Cette guerre injuste est une guerre vaine », écrit l'Humanité, « cette terre est une terre étrangère ». Des affirmations qui apportent de l'eau au moulin des autres journaux, qui, si on les poussait un peu, accuseraient presque les communistes de traîtrise. Le Figaro soupçonne le parti, qui ne s'est pas associé à l'Assemblée, à l'hommage aux soldats du camp retranché, de vouloir le désordre. L'Aurore, elle, sous la plume de Robert Bonny, stigmatise ceux qui devraient rester en dehors de l'Union, les misérables qui ont refusé de se lever pour rendre hommage aux soldats morts. Ça n'est pas le cas de Claude Bourdet, de France Observateur, qui néanmoins estime que le sacrifice demandé à ses soldats par le général De Castre n'avait aucun sens dans la perspective d'une trêve proche. Mais il ne suffit pas d'accuser les autres. La Croix et le Figaro, de concert, procèdent à leur examen de conscience et affirment que les Français se sont mentis à eux-mêmes. Et même si l'Aurore, avec l'Express ou le Populaire, appelle à rendre hommage aux victimes dans un premier temps, on sent que la politique ne tardera pas à reprendre le dessus. Combat accuse en écrivant que les hommages à l'héroïsme des officiers et des soldats sonnent mal dans certaines bouches. Et chacun reconnaîtra dans cette description le gouvernement Laniel, qui se trouve sous les feux croisés des critiques du Monde, de Libération, de l'Aurore, du Populaire et de Combat, donc. Le Figaro et le Parisien libéré ne voient cependant pas de meilleure solution que de le soutenir, ce gouvernement, en attendant mieux. On le voit, après la douleur et le recueillement, très vite, la politique revient au galop.
Merci Emmanuel. La politique, justement, c'est un peu une des conséquences de Dien Bien Phu. D'abord, nous allons les voir, si vous le voulez bien, en France. Et cette conséquence a été pour beaucoup d'officiers, parce que vous n'avez pas entendu, enfin, vous étiez caporal, Pierre Schoendorfer, mais cinéaste, vous n'avez pas évidemment lu ces textes, mais vous nous parliez tout à l'heure du désarroi, de la honte qui submergeait ces soldats et ces officiers français. Est-ce que, entre autres conséquences, on l'a souvent dit, Dien Bien Phu ne les a pas marqués au point, au fond, de contenir le futur 13 mai en germe. Je lis ça parce que j'ai sous les yeux un texte de Jean-Pierre Danneau que nous avions d'ailleurs utilisé pour la série d'émissions que nous avons faites sur la guerre d'Indochine et qui dit « Dien Bien Phu a tué en eux, il parle des soldats français, le vieil homme aux troubles de la défaite s'est ajouté celui que donne le contact d'un ennemi dont on mesure pleinement les qualités en même temps que la puissance. Il peut en résulter chez eux quelques idées nouvelles, un peu sommaires sur la politique. Il en résulte pour eux le plus souvent la conviction que l'armée est à réformer en même temps que le régime. Dien Bien Phu est un verdict et une dernière sommation. » Et c'est vrai que ces lieutenants devenus capitaines, ces capitaines devenus commandants, ces commandants devenus colonels en Algérie sont les mêmes qui, plus tard, ont fait le 13 mai et ont amené De Gaulle au pouvoir. Est-ce qu'on peut considérer, Lucien Baudard, vous l'aviez écrit d'ailleurs, je crois, dans François, le lien qu'il y a entre l'Indochine et le 13 mai 58.
En d'ailleurs, ce qui concerne les militaires, oui, je me souviens très bien.
Approchez-vous un tout petit peu du censeur, micro, Lucien Baudard.
Pardon ? Que l'officier censeur. Qui censurait mes dépêches à Hanoï, après Dien Bien Phu, après les accords de Genève, m'a dit, on a laissé passer vos télégrammes pessimistes en grande partie, mais si une situation pareille se renouvelle en Algérie, on ne vous permettra pas. C'était une phrase qui annonçait ce qui allait se passer en Algérie. Et en effet, il faut considérer que Dien Bien Phu a une importance capitale. Parce que Dien Bien Phu, c'était, si vous voulez, un tournoi, un défi mutuel. C'était, si vous voulez, on s'est dit, les deux camps se sont dit, face à face, à qui gagnera. Et qui gagnera sera victorieux. Ce qui était vrai, mais pas totalement vrai. Parce que Dien Bien Phu n'a engagé que 4 ou 5% du corps expéditionnaire. Mais après Dien Bien Phu, ces 4 ou 5% du corps expéditionnaire, considéraient qu'on était vaincu, considéraient qu'on avait perdu, le monde entier, il n'était plus question de continuer la guerre. Sauf dans l'esprit insensé du général Navarre. Et, d'ailleurs, comment l'aurait-on continué? On ne pouvait tenir face aux Viet nulle part, ni dans les deltas, ni dans les jungles. Il aura fallu la leçon de Dien Bien Phu, et qui n'aura pas suffi à Navarre. Il croyait qu'on pouvait faire quelque chose, on ne pouvait plus rien faire. On était perdus, encore perdus en Indochine. Quand Mendès France a finalement obtenu à signer avec les Viet, il avait menacé au dernier moment, s'il n'y avait pas cette signature, d'envoyer le corps expéditionnaire.
D'envoyer le contingent, oui.
D'envoyer le contingent. Oui. Ça aurait été une catastrophe. Il fallait se tirer l'Indochine le plus rapidement possible, le laisser aux Américains, qui, avec ce qu'ils croyaient être leur force morale, parce qu'ils nous considéraient un peu comme des colonialistes, et qui, avec leurs moyens matériels formidables, eh bien, ne sont arrivés à rien.
Pierre Schoendorfer, vous intervenez.
Oui, non, je voulais juste ajouter que Dien Bien Phu, d'une certaine manière, reflétait aussi la situation de mai-juin 40. Aussi bien, d'une certaine manière, sur le plan politique que sur le plan militaire, si vous voulez, l'état-major de Gamelin et de Georges, c'est reflété un peu les rapports entre le général Navarre et le général Koeny. Et donc tout ça, à un moment donné, ça faisait beaucoup pour sur le dos des mêmes militaires qui étaient quand même responsables de la vie de leurs soldats. J'entends les subalternes.
Il n'y a eu qu'un moment où il n'y a pas eu de guerre de généraux en Indochine, c'est pendant l'époque de Lattre. Parce qu'auparavant, il y a eu une première défaite, celle de Dong et celle de RC4. Eh bien, ça s'est terminé par exactement la même guerre entre les deux responsables, Carpentier qui commandait en Indochine et Alessandri qui commandait au Tonkin.
Cette bataille, d'ailleurs, de Donquay a eu beaucoup moins d'écho, alors que c'était la plus grande défaite militaire qu'a jamais connue la France, celle de la RC4, qu'a jamais connue la France depuis la défaite de Montcalm à Québec. C'est quand même inouï, ces défaites, c'est la surprise, d'ailleurs, qu'a pu représenter, effectivement, la force du général Giap. Oui, Jacques Dalloz ?
Oui, en ce qui concerne l'état d'esprit de l'armée, il y a un rapport du ministre de la Défense de l'époque, qui est René Pléven, Ce rapport est assez clair. René Pleven dit qu'il craint qu'on en arrive à de véritables manifestations militaires. Et il poursuit, l'armée organisera peut-être un mouvement spectaculaire et le gouvernement cédera. 1954.
Il était en avance de 4 ans. Oui, Jean-Pierre
entre,
Danot.
Entre Navarre et Carpentier, il y a un point commun, c'est la sous-estimation de l'adversaire. En ce qui concerne la bataille de la RC4, il faut dire que ça a été la révélation de l'infanterie Viet, n'est-ce pas ? Et si Charton avait été un légionnaire moins courageux, il aurait quitté Dien Bien Phu, il aurait quitté Caobang à toute vitesse, et il serait arrivé, en laissant son train, ses impédimentas, il serait arrivé à temps pour faire la liaison avec le page. De même, si le général Navarre n'avait pas sous-estimé l'artillerie et la logistique Viet, il n'aurait pas pris le risque qu'il a pris à Dien Bien Phu.
Alors il y en a un, en tout cas, qui ne sous-estime pas le général Giap, et on a pu l'entendre, je crois, dans l'émission de lundi dernier, c'est le colonel, à l'époque, il a été fait colonel à Dien Bien Phu, devenu le général Bijar. Je vous propose d'entendre quand même les propos assez surprenants qu'il a pu tenir, pour ceux qui n'ont pas entendu le documentaire de lundi dernier, sur le général Giap, quand je lui ai demandé ce qu'il pensait, effectivement, de ce vainqueur de Dien Bien Phu.
J'aurais été vietnamien, pourquoi j'aurais été avec lui, sûrement. Moi, je comprends tout ça, mais j'étais français, avec des patrons comme De Gaulle, comme Leclerc. Bon, ben, on y croit autant, quoi, c'est ça. Hein.
Vous auriez été avec lui si vous aviez été vietnamien ?
Hein, oui, de même que si j'avais été algérien, j'aurais été fait la guerre, pourquoi pas. Mais je comprends, faut comprendre tout le monde, c'est ça la vie, quoi. Mais marxisme, non, ça, quand même, ça n'aurait pas passé.
Camarade, le combat vietnamien.
Alors il avait dit, il faut le dire auparavant, qu'effectivement il considérait Giap comme un grand bonhomme. Et il est vrai quand même que c'est un personnage assez étonnant, ancien professeur d'histoire, qui ne sortait pas des écoles militaires, et d'ailleurs qui était pour cette raison, Brigitte Friang l'a rappelé également dans le documentaire de lundi dernier, très sous-estimé par l'état-major. Il y a ce sentiment de supériorité extraordinaire qui a été peut-être aussi la grande faille des officiers en Indochine. Est-ce qu'on peut dire, malgré cette victoire de Dien Bien Phu, que le Viet Minh a véritablement gagné. Ça, c'est une chose que l'on évoque assez peu, mais en définitive, Giap attaque à Dien Bien Phu pour mettre la délégation Viet Minh menée par Pham Van Dong à Genève en position de force, de manière à gagner la guerre. Ils viennent de gagner une bataille et ils souhaitent gagner la guerre. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quand même quelles conséquences ça a eu pour le Vietnam, Jacques Dalloz, c'est-à-dire les accords de Genève pour les Vietnamiens?
En réalité, d'abord, Dien Bien Phu, c'est une victoire très partielle, comme Navarre le dit pour ses dédouanés. C'est une victoire surtout psychologique. Ça a permis donc à la France de se dépêtrer de cette guerre. Le Viet Minh voulait cette victoire justement parce qu'il craignait le lâchage des grands frères. Et c'était l'objectif de Bidault, qui était le ministre français des Affaires étrangères, d'arriver à Genève et puis, dans une négociation planétaire, de faire que les grandes puissances communistes oblige le Viet Minh à rabattre de ses prétentions. En fait, donc, avec Bidault, puis avec Mendès France, on aboutit à une solution qui est extrêmement mitigée. Et en tout cas, il est certain que Pham Van Dong, qui dirigeait la délégation du Viet Minh, a été assez mécontent. Il a subi des pressions, tout de même, à la fois des Soviétiques et des Chinois, puisque les accords de Genève sont des accords très complexes, mais au fond, ça n'a donné qu'une pause dans l'aventure vietnamienne, puisque le Viet Minh, qui va devenir le Viet Cong, va reprendre la guerre au sud dès 1960.
Est-ce qu'on peut dire, pour paraphraser De Gaulle, au fond, que le Viet Minh a gagné une bataille, enfin, Ho Chi Minh a gagné une bataille, mais n'a pas gagné la guerre, d'une certaine manière, puisqu'elle va se prolonger.
Il a gagné à moitié la guerre.
Oui,
une des raisons pour lesquelles le Viet Minh n'a pas totalement gagné la guerre, c'est, outre le fait que les communistes vietnamiens aient été, moi, je n'hésite pas à utiliser le mot, trahis par les Soviétiques et les Chinois politiquement à Genève, il faut également dire qu'ils n'ont pas reçu suffisamment de matériel chinois ou soviétique pour la gagner totalement. Contrairement à ce que prétend la légende, les Chinois et les Soviétiques n'ont distillé qu'au compte-goutte du matériel au Viet Minh. Ils avaient les moyens matériels de livrer au Viet Minh une quantité de matériel énorme qui leur aurait permis de rejeter les Français à la mer. Les Soviétiques et les Chinois ne l'ont pas fait.
Ils ont fourni beaucoup de matériel. Mais à partir d'un certain point, en effet, ils avaient peut-être envie à ce que le Viet Minh ne soit pas complètement vainqueur, n'occupe pas tout le Vietnam. Et il se peut que cette aide ait pu se ralentir. Comme je vous l'ai dit, cette bataille est une bataille où on a perdu moralement, psychologiquement, on a perdu totalement. C'était comme des chevaliers dans un tournoi. Eh bien, On s'était cassé la gueule et il ne restait plus rien. Moi, j'ai assisté au défilé le lendemain de l'anniversaire de la victoire sur l'Allemagne, le défilé à Hanoï avec le général Kony. C'était lugubre. Et tout ça annonçait les retraites, les départs, les évacuations. Et ça annonçait la fin de l'Indochine française.
Jean-Pierre Daneau.
Oui, si on prend la chose en 1980, comme aujourd'hui, en 1992, bon, on se dit, le Viet Minh a gagné une première guerre contre la France. Ça a été le point final pour la France. Là-dessus, insuffisamment aidé par la Chine et par l'URSS, il est obligé d'accepter des conditions qui ne sont pas entièrement satisfaisantes, loin de là, à Genève. Puis, il y a la deuxième guerre contre la plus grande puissance du monde, et il la gagne à nouveau. Mais aujourd'hui, en 92, on est bien amené à se dire qu'après avoir gagné deux guerres, il n'a pas gagné l'après-guerre pour lui. Et il s'agit de savoir pourquoi ces qualités extraordinaires qui ont permis ces deux victoires éblouissantes n'ont pas permis à ce pays de jouir de sa victoire.
Pourquoi ? Vous avez été, vous, justement, Pierre Schendorfer, il n'y a pas longtemps. Vous vous étiez promis, d'ailleurs, de ne plus retourner au Vietnam. Vous y avez été.
Oui, j'y suis retourné parce que c'est, en définitive, les Viet, enfin, je les appelle les Viet Minh, mais appelons-les les Vietnamiens, qui ont souhaité que ce film, qu'ils savaient être fait par moi, se tourne au Vietnam. Et en me laissant la liberté totale de mon travail de scénariste et de metteur en scène. Et ça m'a fait revoir cette position. Je voulais pas y retourner pour des tas de raisons, parce que j'avais vraiment découvert par la captivité le fond ou l'essence un peu du régime, si vous voulez, les goulags dont la plupart des gens ont découvert par Solzhenitsyn. Moi, je les avais connus. Et c'est pas mon expérience personnelle, c'est celle de mes camarades et surtout celle des Vietnamiens qui étaient avec nous, nos camarades de combat vietnamiens. Donc, toutes ces raisons faisaient que je n'avais pas pour. Mais à partir du moment où, avec ce vent de l'histoire qui change, ces Vietnamiens qui souhaitent faire ce film chez eux, qu'on fasse ce film chez eux, je me suis dit, je vais aller voir. Et quand j'ai été les voir, j'ai d'abord été surpris de la discrétion de la langue de bois, si je peux dire. C'est-à-dire qu'ils faisaient très attention à ne pas me heurter et à bien me confirmer les libertés dont j'estimais avoir besoin pour faire mon film et leur volonté de participation, et justifiant cette participation sur le fait qu'en disant, ils m'ont dit, cette victoire est quelque chose d'essentiel dans notre pays. C'est une bataille qui marque un des hauts lieux de notre histoire, et cela nous intéresse d'avoir le regard français sur cette bataille. Donc on veut vous faciliter le travail. Et je pense que c'était donc une sorte de main tendue et que j'ai décidé de prendre. Et étant donné ce que j'ai vu au Vietnam, étant donné ce mouvement très prudent, frileux, mais indiscutable vers un libéralisme, j'ai pensé que c'était une chose bien de le faire avec eux.
Oui, que tu étais généreux, parce que tu es passé dans les clans Viet. Si dans la guerre, l'attitude du comportement Viet a été normale, leur comportement dans camps de prisonniers.
Oui, mais justement, je n'ai pas voulu faire un film sur les camps de prisonniers, puisque mon sujet était Dien Bien Phu. Je signale quand même, à la fin du film, le pourcentage des gens qui vont mourir dans les camps, et qui est considérable, puisque je dis que les trois quarts des soldats qu'on voit vont mourir soit sur la route, soit dans les camps. Et ils vont mourir de quoi ? Ils vont mourir des maladies inhérentes à d'épuisement, de sous-alimentation, et pire que tout, du travail des commissaires politiques qui veulent non pas nous transformer en communistes, mais nous faire renier les valeurs pour lesquelles nous combattons, qui veulent donc d'une certaine manière nous forcer à nous dégrader. Et quelqu'un qui est dans un état de survie à peine possible a besoin d'avoir une foi morale pour vivre. À partir du moment où on le force plus ou moins, et d'une manière très habile, parce que quelquefois c'est la survie d'un camarade qui a un petit peu plus de riz si on finit par accepter de signer ses manifestes, quelqu'un qui se dégrade n'a plus la même force morale qui fait qu'on survit. Et donc beaucoup de prisonniers sont morts du travail
je dirais, psychologique, assez simple, des commissaires politiques.
Il fera l'objet d'un prochain film, ça, Pierre Schoendorfer, non?
Non, parce que c'est quelque chose que je trouve horrible, et je n'ai pas envie de parler des choses horribles, même si les gens qui ont résisté à ce travail et à cette misère sont des gens remarquables, et j'en témoigne, mes camarades de camp ont tous été des gens très très bien, hein, vraiment... Mais j'ai quand même quelque chose dont j'ai pas envie de parler parce que ça, encore aujourd'hui, ça me met en colère. Vous voyez.
Et puis Jean-Pierre Daneau. Pour ce genre de film, il n'y aurait pas le concours de la République démocratique du Vietnam.
Vous dites à la fin de votre film, vous le dites aussi dans ce livre donc qui accompagne le film, « Je veux tourner avec vous », dites-vous aux Vietnamiens, une page sur un passé commun douloureux et contribuer à renouer les relations chaleureuses avec vous.
Voilà, ça c'est aussi une chose que je pense, c'est que 38 ans après une bataille comme ça, ce n'est pas pour faire un film qui crie « vengeance » ou « revanche ». Je pense que les temps sont passés de ça. Je veux que moi, garder ce que je trouve intolérable chez les Viet, je pense qu'eux ont des choses, à tort ou à raison, qu'ils trouvent intolérables chez nous, mais que si chacun laisse ça de côté, on se rend compte qu'on a quand même un volume de choses en commun qui est extrêmement riche et qui est rare, et que c'est de ça dont il faut parler pour l'avenir. Je voulais aussi que mon film ne soit pas ni morbide, ni de désespoir. Je voulais qu'il y ait une lueur d'espérance, et la lueur d'espérance, c'est l'avenir, pas uniquement avec les Vietnamiens, l'avenir que peuvent avoir entre eux les hommes qui, à un moment donné, se sont durement affrontés pour quelque chose qui était essentiel.
Vous dites à Dien Bien Phu, je suis devenu adulte.
Oui, oui. Moi, j'étais donc un petit peu retardé, puisque j'avais quand même... je suis arrivé en Indochine, j'avais 23 ans. J'ai eu 26 ans le 5 mai, c'est-à-dire deux jours avant la chute à Dien Bien Phu. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, j'étais encore un adolescent, et que, en fait, mon travail de... Mon passage de l'âge... de l'adolescence à l'âge adulte s'est fait pendant ces 3 ans que j'ai passé en Indochine, qui ont été essentiels, évidemment, et qui font que j'ai un attachement, outre l'attachement qu'on peut avoir purement intellectuel pour ce pays, j'ai un attachement un peu viscéral, qui fait que c'est un pays qui me touche vraiment, vraiment le cœur.
Sur Dien Bien Phu, moi je me tourne vers les jeunes historiens aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour vous, jeunes ou moins jeunes, mais enfin vous n'étiez pas très âgé, Jacques Dalloz, Dien Bien Phu, pourquoi vous avez écrit ce livre, vous? Ces livres.
Dien Bien Phu, ça représente beaucoup, ça représente une date dans les rapports Est-Ouest. On n'a pas parlé d'une chose, notamment. Dien Bien Phu, c'était l'occasion d'une très grave crise internationale, puisque la France a demandé aux Américains, à l'époque, une aide massive. C'est l'opération Vautour. On s'est demandé, donc, dans les négociations franco-américaines, si on n'allait pas envoyer des forteresses volantes pour dégager de Dien Bien Phu. Il y a eu des négociations très âpres entre Paris... Washington.
Il y a des questions de bombes atomiques qu'avaient proposé les Américains.
Non, enfin, ça n'a jamais été vraiment sérieux.
C'est ce que Didot dit en parlant de Dulles.
Oui, bon, je voudrais faire une mise au point sur les bombes atomiques. Servan Schreiber, dans son livre Passion, prétend qu'il y a eu une réunion entre Pleven, le chef du gouvernement, Pleven, qui était le ministre de la guerre, Laniel, le chef du gouvernement, également Bidot, le ministre, qu'ils ont décidé de demander l'appui atomique américain, que Pleven et Bidot sont allés aux États-Unis pour négocier cette question, et que lui, Servan Schreiber, a fait un article à la Une du Monde pour dénoncer cette demande américaine d'aide atomique. Je crois que tout cela est parfaitement faux, et on peut le vérifier en ce qui concerne le monde. Servan Schreiber n'a jamais fait d'article qui parle d'une demande d'intervention atomique américaine.
Ce n'est pas la seule inexactitude de ce livre, d'ailleurs.
En tout cas, l'amiral Radford, commandant la 7e flotte américaine, avait, lui, pensé sérieusement l'utiliser.
La bombe atomique, je crois pas. Non. Radford, ça ne dépend pas de lui. Hein, d'abord, ça ne dépend pas de lui.
Il avait des armes nucléaires tactiques.
Oui, mais ça ne dépend pas de lui. Non, il avait les B-29 pour des raids traditionnels de bombardement classique. Mais lui, il n'avait aucune responsabilité sur la bombe atomique. Hein. Ça dépendait de Eisenhower et c'est tout. Hein.
Jean-Pierre Daneau, vous, en deux mots simplement, Dien Bien Phu, aujourd'hui, vous avez écrit de très très belles choses sur la guerre d'Indochine. J'aimerais qu'elle soit un jour rééditée, je l'espère, la guerre morte. Dien Bien Phu, aujourd'hui, pour vous qui avez couvert la guerre, enfin qui avez participé, assisté à cette guerre pratiquement du début à la fin.
Bien, je crois que Dien Bien Phu a eu, si je puis dire, l'avantage de mettre un point final héroïque à une guerre qui a connu des hauts et des bas, qui n'était pas soutenu par la France. Les soldats, les combattants d'Indochine étaient habitués d'ailleurs à ce que cette guerre ne soit pas populaire. Ils vivaient très bien sans cela. Mais la chance de Dien Bien Phu, la grandeur de Dien Bien Phu, c'est d'avoir fait que cette guerre d'Indochine s'est terminée sans que l'héroïsme des combattants ait pu être mis en doute, dans une sorte de crépuscule des dieux, avec en plus le sourire de Geneviève de Galard.
Merci pour cette belle chute. Lucien Baudard, un tout petit mot peut-être pour la même chose, la même question. Je vous pose la même question.
Dien Bien Phu, pour vous. Je pense que si le général Delattre avait décidé de faire Dien Bien Phu, peut-être que Dien Bien Phu ne serait pas tombé, parce que le général Delattre aurait pris les précautions, aurait rassemblé les forces, aurait calculé les chefs. Delattre était un chef. Et après Delattre, il n'y a eu plus de chef en Indochine, sauf peut-être le général Salan qui avait du flair.
Et ben, ça fera sûrement plaisir à quelqu'un dans cette salle comble, et quelqu'un qui est sous l'autorité de laquelle nous avons parlé ce soir, qui était la maréchale Delattre. Je voudrais, avant de nous quitter, vous mentionner quelques livres ou films. D'abord, de Pierre Schoendorfer, bien sûr, le film Dien Bien Phu, qui vient de sortir. La réédition, la 317e section, dans la collection Fixo. Et puis également, Dien Bien Phu, donc, de la bataille au film, également aux éditions Fixo. De Jacques Dalloz, on en a beaucoup parlé. Dien Bien Phu à la documentation française, donc. Et puis, La guerre d'Indochine. Je répète, c'est un livre très clair pour les étudiants, qui sont nombreux ce soir, sur La guerre d'Indochine, collection... c'est au Seuil. Dans la collection Point Histoire de Lucien Baudard, donc La guerre d'Indochine chez Gallimard, il est pratiquement introuvable, mais c'est magnifiquement écrit. Et puis, il y a un roman, Les 10 000 marches, qui vient de sortir également. De Laurent Henninger, donc un numéro spécial, enfin de Laurent Henninger, il y a également un numéro spécial sur Dien Bien Phu, des dossiers de l'histoire, qui est paru en janvier. Je crois qu'on peut le retrouver en s'adressant aux dossiers de l'histoire, et c'est vous qui l'avez largement écrit, les articles sur Dien Bien Phu, Laurent Henninger, en partie. Et puis également, il faut mentionner un très beau travail auquel a participé d'ailleurs Jacques Dalloz, qui est un numéro, le numéro d'Historia du mois de mars, qui vient de sortir et qui a en titre effectivement une photo de votre film, Pierre Schoendorfer. Il y a une interview de vous, Dien Bien Phu, donc Historia. Également, quelques autres livres. Leclerc et l'Indochine, est-ce que cette guerre se serait déroulée si le général Leclerc, qui voulait l'indépendance dès 1945-46, eh bien, avait commandé? C'est chez Albin Michel. Du général Schmitt, ancien commandant en chef en Indochine, de Dien Bien Phu, ancien chef d'état-major de nos armées, il était à Dien Bien Phu, je crois qu'il était lieutenant, un livre qui vient de paraître chez Grasset, de Dien Bien Phu à Kuwait City, puisque c'est lui qui commandait l'opération, effectivement, au Koweït. Et puis la réédition du médecin commandant Grovin, J'étais médecin à Dien Bien Phu, de Jean-Claude Labbé, un très beau livre sur le Vietnam. C'est un livre documentaire avec des photos sur le Vietnam. Puis d'Erwan Bergo, les 170 jours de Dien Bien Phu, et également le convoi 42, les prisonniers aux presses de la cité, les prisonniers de Dien Bien Phu. Enfin, nos cassettes, les cassettes Radio France, nous avons fait avec Christine Arsugi 7 heures d'émission qui ont été diffusées en cassette Radio France avec une interview de Lucien Baudard et beaucoup d'autres témoins en France et au Vietnam, et puis de superbes textes de Jean-Pierre Daneau et également de Lucien Baudard. C'était l'Histoire en direct. À la technique ce soir, Alain Joubert, Henri Bérec, Laurent Macchietti et la collaboration de Rebecca de Nantes et de Guy Péramor. C'était l'Histoire en direct, animé par Patrice Gélinet et réalisé par Christine Bernard-Sugy.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 mars 1992.